Alex, tu réécoutes l'émission d'hier là.
Hier, ouais. avant-hier.
Oh là là, dites donc, quelle force de travail.
Parce qu'il y a un truc qui me chiffonne.
Quoi ?
Ben, tu vas sans doute pouvoir m'éclairer.
Ouais, ouais, vas-y.
Ces derniers temps, tu donnes quand même l'heure à la sortie du disque. Et...
Écoute, c'est important, les gens aiment savoir leur
tirer. Oui, c'est pas le problème. C'est parce que tu cites souvent des villes comme ça.
Oui, mais je choisis au hasard.
Oui,
comme
alors ça, j'imagine totalement. Mais t'as pas de bol en ce moment parce que ça fait 3 jours, c'est un peu gênant. Écoute, mardi.
Il est 17h36, ça, très con. C'est dans le département de la Marne, en région Champagne-Ardenne.
Donc très con, voilà.
C'est... Bah, écoute, c'est une jolie petite bourgade.
Non, mais Charline, tu sens quand même le souci.
C'est le hasard, tu vois.
T'es sûr? Oui. Parce que le lendemain...
Mm-hmm. Et vous êtes sur France Inter, où il est 17h37 à Deuverges. C'est dans le Cantal.
Mais Charline...
Deuverges, son église, tu sais, son marché, son bar...
Arrête, mais tu me prends pour une truffe.
Mais c'est important de parler des territoires ruraux.
J'entends bien, mais il y a suffisamment de villages qui n'ont aucune connotation.
C'est plus de mon ressort, c'est la probabilité, c'est
mon
tout.
Mais enfin, mais écoute, hier...
Il est 17h39 à Branlette.
Ah oui, c'est vrai qu'on avait oublié le point.
C'est un village de la Haute-Vienne.
Je vais faire attention.
Moi, si j'avais eu l'idée de faire des jeux de mots avec des villes, mais tu m'aurais tué.
Ah, ça, je te le confirme, oui.
Non, mais alors, ce sera quoi aujourd'hui? Tricqueville, Baise-sur-Mer, Partouze-la-Reine?
Non, et oh là, je prends que des villes qui existent, moi.
Bon, alors, c'est quoi aujourd'hui?
Ah bah, tu verras. En tout cas, c'est dans le Lot-et-Garonne.
Il n'y a pas de jeu de mots.
Promis. Ou alors, ce serait vraiment pas de bol. Bonjour la France Inter et bienvenue dans la start-up de l'incubateur Radio France. Et voici les 3 informations qui vont effectuer un rebond sur le marché de la blague. Les nouveaux députés issus du privé sont en plein blues. La différence de salaire, le temps long de la politique loin de la rentabilité de l'entreprise. Le malaise gagne les troupes à l'image de cette députée qui mange des pâtes. Elle est au bord du nervous breakdown.
Josiane, faut que tu viennes me chercher. J'ai plus de tes messages, j'ai peur de moi. Là.
Après le béton et les armes, c'est au tour d'un constructeur automobile de racheter la presse. Renault entre au capital du groupe Challenge. Les journalistes de Challenge doivent trouver ça croquignolé.
Déshabillez-vous.
Pardon ?
Déshabillez-vous ? Vous allez faire le tour de la salle de rédaction tout nu, nous allons pouvoir juger de l'effet comique.
La parole qui se libère chez les femmes, mais comment le vivent les hommes ? Qu'en disent-ils et surtout sont-ils à l'aise face à la révolution qui s'annonce ?
Vous allez dire des bêtises.
Lui, c'est pas qu'il libère la parole, il va plus loin, il ouvre les vannes. C'est Alex Vizorek.
Oh là là, que c'est bien dit. Bonjour Charline Vanhoenacker, et aujourd'hui autour de la table, une équipe de qualité à 17h20. Quand ses compagnes lui disent « S'il te plaît, ne me raconte pas des histoires », il peut toujours leur répondre « Mais ma chérie, c'est mon travail ». C'est Thomas Wittgen, bonjour.
Bonjour à tous. Bonjour Bernard. On va parler de biopic.
De biopic, ça tombe bien. À 17h30, celle qui attend que les gens soient décédés pour parler d'eux, c'est son petit côté Jack Lang. Bonjour Christine Gonzalez.
Bonjour. Alors comme cette semaine s'est tenue un sommet climat à Paris, je vais demander au commandant Cousteau de faire le point avec nous depuis l'au-delà. Tout se passe bien, commandant, vous êtes bien entouré?
Nous sommes seuls dans le système solaire. Nous sommes condamnés à la solitude.
Et voilà. À 17h40, le retour de l'enfant prodige. La télévision nous l'enlève, le cinéma nous le kidnappe, la scène nous le chaparde, mais jamais son coiffeur ne nous le pique. C'est Thomas VDB, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler moi de ces fois où on poste un j'aime sur une vidéo sur internet sur quelqu'un, une vidéo qui porte sur quelqu'un, et puis ensuite il y a un scandale qui a lieu sur ce quelqu'un et on retourne une semaine après, on dit tiens, je vais enlever le j'aime.
Voilà, très bien, ça aidera tout le monde. Et à 17h55, il viendra se les gratter devant nous. Je veux bien sûr parler des cordes de sa guitare. Frédéric Fromet sera là pour sa chanson hebdomadaire.
Et je me tourne vers celui qui va disrupter avec nous. Vous débutez comme stagiaire au Nouvel Observateur en 71, qui vous engage ensuite au service société. Vous intégrez le journal Le Monde, qui vous envoie en poste à Vienne, puis à Varsovie, à Gdansk, où vous croisez l'éclosion, vous couvrez plutôt l'éclosion du syndicat Solidarité, dirigé par Lech Walesa. Vous vous installez ensuite à Washington, dans l'Amérique de Reagan, puis à Moscou, dans la Russie de Gorbatchev. Vous couvrez l'effondrement de l'URSS. Vous recevez le prix Albert Londres en 1981. Vous avez été rédacteur en chef à l'Expansion, puis rédacteur chef du Nouvel Obs. Et vous travaillez à France Inter depuis 26 ans. 26 années à construire sans relâche la honte de la République. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Non, c'est pas moi. Non.
Il est encore
non,
temps de fouiller,
fiche, c'est
de,
pas moi.
De fouiller bon, Bernard Guetta.
Guetta Bernard, d'accord.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
Charles Jupiter.
Bienvenue Bernard Guetta.
Merci.
Merci de nous accorder une heure de votre temps avant vos vacances. On vous retrouvera en début de...
Je les ai commencé ce matin. Oui. Ah, je suis rentré de vacances.
Ça. Ah, c'est ça, d'accord. Voilà. Bernard Guetta, vous publiez dans L'Ivresse de l'Histoire. C'est paru chez Flammarion. En lisant votre ouvrage, on voit que votre instinct professionnel vous a mené partout où ça se passe, là où le monde a changé. Rien d'étonnant dès lors que vous soyez dans Par Jupiter aujourd'hui. vous racontez un pan de l'histoire contemporaine à travers les yeux du reporter Guetta, en poste, j'ai dit, à Vienne, à Varsovie, Washington, Moscou. Après avoir vécu la révolution ouvrière démocratique à l'Est, vous êtes parti directement vivre la révolution conservatrice à l'Ouest. Et vous nous emmenez aux premières loges donc, de plusieurs révolutions.
5 en tout,
effectivement. Alors, notre émission...
Vous ne foutez pas un peu la merde là où vous vous trouvez, Bernard Guetta, à un moment.
On me l'a demandé souvent. On me l'a demandé souvent et un jour, j'ai demandé au Quai d'Orsay, mais vous ne pourriez pas m'envoyer comme consul Maldives. Non, il y aurait une révolution immédiatement.
C'est vrai.
Ils n'ont jamais voulu. Moi, je rêvais d'être consul aux Maldives, mais ça n'a pas marché.
C'est vrai que vous n'êtes pas tout blanc des 68, avec la clique des Cohn-Bendit, Krivine, etc. On va y revenir. Mais... Donc, notre émission mêle la blague et l'actualité, je voudrais d'abord m'attarder sur un passage. Vous expliquez, on riait de tout à l'Est. Le bloc soviétique était une usine à blagues politiques. Les anecdotes que chacun croyait siennes, mais aussi qui circulaient dans tout l'Empire, avec des variantes nationales. Un peu plus loin, vous expliquez, pour expliquer la Hongrie, Janos, votre contact, donc sur place, avait préféré le langage de l'humour à celui de la politique. Donc, l'humour a un rôle à jouer. Avant la Révolution, au moment de la Révolution, pour...
Alors, pas au moment de la Révolution. Là, on est déjà dans le drame, l'image d'Épinal, tout ce que vous savez. Mais avant la Révolution, oui. Parce que, comme on ne peut pas parler politique directement, même pas devant le cercle familial, parce qu'il peut y avoir, dans le cercle familial, un indice. On l'a bien vu après 89, au moment de l'ouverture des archives, notamment en Allemagne de l'Est, il y a eu des trucs absolument terrifiants. Le mari ou la femme découvrait que son mari ou sa femme le renseignait, la police, etc., etc. Alors, il y avait des blagues. Alors, par exemple, parce que... Je sens que vous voulez que j'en raconte une.
Oh, bah, allez-y, si
vous voulez. Allez, voilà, allez. Mais vous me payez cash.
C'est une sorte de métalangage.
Oui, absolument. C'est chic, dites-vous.
Oui, c'est chic.
Métalangage.
On met le niveau.
Bon, d'accord. Enfin, bref. Un Bulgare et un Russe se baladent ensemble et soudain, sur le trottoir, à leurs pieds, un billet de 100 dollars. Et le Russe dit « Ah, on partage en frère !» Et l'autre répond « Ah non, 50-50
» C'est vrai que vous en racontez plusieurs, il y a notamment, puisque Christine Gonzalez...
On ne peut pas dire que vous ne mettez pas le ton quand vous racontez l'histoire, en tout cas.
Comme Christine Gonzalez est là, il y a aussi « La Suisse peut-elle devenir socialiste ?»
La réponse est « Oui ». Mais ce serait dommage.
Voilà pour le rôle de l'humour. Alors, vous pleurez de joie à Varsovie en 80. Vous fêtez les accords de Gdansk. C'est la première fois que le régime communiste cède aux revendications des travailleurs et autorise l'existence d'un syndicat libre. Et quand vous rentrez au Maroc pour les vacances en famille, vous croisez la très haute société. Vous balancez de l'un à l'autre entre vos reportages et parfois la vie qui vous mène là-bas. Et là-bas, on vous dit... ils sont bien baisés, les cocos. Cette image-là de balance entre les travailleurs à Gdansk et cette réflexion, ça, c'est ce qui peut expliquer l'équilibre de votre vision du monde et de ne pas prendre parti ou de...
Oh, je prends parti.
Oui, mais...
Ah, je ne fais que ça dans ma vie professionnelle. Non, je n'ai fait que ça.
Journaliste, je veux dire, pour équilibrer les choses et votre regard.
Non, si vous voulez, j'ai toujours été attaché à découvrir ce qu'était... Découvrir et exposer, naturellement. Ce qu'était ou ce qu'est la raison de l'autre. Et ça, vous avez raison, ça tient beaucoup à mon enfance. Parce que j'allais passer mes vacances chez mes grands-parents... Au Maroc. Mon grand-père était un industriel. Bon, enfin, entendons-nous, c'était pas Michelin, c'était un petit industriel. Il faisait de l'huile d'olive et du savon, vous voyez le genre, quoi. Bon. Mais, il avait des problèmes avec les syndicats, avec les réglementations, avec le gouvernement, l'État, qui ne le laissait pas libre d'investir, etc., etc. Donc, j'entendais les raisons d'un petit patron. Et puis, je rentrais à Paris, mes parents étaient tous les deux, en tout cas dans leur jeunesse, Après, ça a un peu changé. Mais enfin bon, comme pour moi d'ailleurs. Mais ils étaient d'extrême gauche et ils parlaient de l'organisation d'une grève nationale chez Renault, comment on allait monter les barricades, etc. etc. Et j'entendais aussi, parce qu'il y avait à la maison des tas de gens d'extrême gauche, non seulement de France, mais du monde entier. Ça, c'est aussi une clé pour ma carrière future. Enfin, passée, je veux dire. Et voilà, oui, c'est vrai. Vous savez, Freud avait raison. Je crois que l'enfance, ça compte.
Et oui.
Ça forme.
Alors, dans ce livre, hein, Bernard Guetta, dans l'ivresse de l'histoire paru chez Flammarion, vous parlez pas de votre période punk à chien dans les rues de Varsovie. Votre
de ma période quoi?
Punk à chien dans les. Ça, il y a rien
je
dessus.
Je sais pas ce que c'est ça.
Ah bon. Ouais. On vous expliquera.
On m'expliquera après, oui, quand on sort. Ouais.
Bernard Guetta est avec nous jusqu'à 18h. Avec Thomas Bideguin, Christine Gonzalez et le retour de Thomas VDB, bien sûr.
On lance la moto.
Et on est avec Bernard Guetta, on va changer le monde jusqu'à 18h.
Si je savais ce que t'as, je ferais sûrement tout ce que je peux. Pour te tirer de là, alors dis-moi ce que tu veux. Avec ce taille, y'en a qui seraient heureux comme des rois. Si pour toi c'est trop peu, c'est déjà beaucoup pour moi. Tu as tout ce que tu veux, mais comme tu veux ce que t'as pas. Tu sais même pas ce que t'as et c'est pour ça que tu m'en veux.
C'est comme ça que je chante Jacques Higelin, alors j'ai le droit, bien sûr. Comme ça, je réveille un petit peu les gens. Bienvenue sur France Inter, par Jupiter. Notre invité, c'est Bernard Guetta, qui publie Dans l'ivresse de l'histoire, paru chez Flammarion. Et pour
un très, très, très bon livre.
Excellent.
Ah oui, pareil, tout
formidable. Mais c'est bien que vous le disiez vous-même.
Je l'ai relu récemment, j'étais étonné. Vraiment, putain, qui c'est l'auteur roulant.
Après le Albert Londres, le Renaudot au minimum.
Non, c'était du dur. Hein.
Eh bien, on est tous d'accord, hein, Thomas Bideguin, Christine Gonzalez et Thomas VDB.
Attention Bernard Guetta, vous allez prendre une leçon d'information.
Alors là.
Moi je suis socialiste et je l'assume.
Le journal de presque 17h17.
En même temps, d'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste.
Et on commence par les titres.
Suite à l'affaire Urvoas, Thierry Soler risque d'être exclu de La République En Marche qu'il venait de rejoindre après son exclusion de chez Les Républicains.
Le mec va réussir le tour de force de se faire virer deux fois en deux mois. Il doit regretter d'avoir soutenu Macron et son programme qui facilite les licenciements.
En proie à des difficultés financières, Marine Le Pen et le Front National viennent de lancer un emprunt patriotique.
Oui, ça va leur faire tout bizarre de faire la manche comme des Roumains.
Il y aura des brèves.
Oui, bien sûr des brèves. Et pour Bernard Guetta qui suit quotidiennement les épisodes de Premier Béziers, eh ben il y en aura un troisième.
L'affaire Urvoas, donc. Oui. Thierry Soler est menacé d'exclusion par son tout nouveau parti, La République En Marche.
Faire virer aussi vite, c'est un fan de François Bayrou, à mon avis.
Mais alors, où pourrait-il atterrir, Alex?
Ah bah, maintenant qu'il a des affaires au cul, peut-être revenir chez les Républicains, il est légitime.
Parlons-en justement de
Les Républicains.
Exactement. Bruno Retailleau, le président du groupe au Sénat, a critiqué ceux qui ont quitté le parti depuis l'élection de Laurent Wauquiez.
Oui, une position qu'il a résumée en une phrase. Ce n'est pas quand ça va mal qu'il faut quitter le navire.
Ah bah tu m'étonnes, hein, venant du mec qui a soutenu Fillon durant toute sa campagne, au moins il est cohérent.
À l'Assemblée nationale, dès 2018, les députés pourront se faire rembourser 1200 euros de loyer à Paris.
Ah bah voilà, une mesure qui va leur permettre de mettre du gruyère dans les pattes. Et ça, moi ça me fait en tout cas plaisir. Parce,
ah bon, ça
bah,
veut, ouais.
Maintenant je sais que la baisse des 5 euros d'APL, eh bien c'était pour une bonne cause. Et ça, ça me tenait à cœur.
Société à présent, oui. Dieudonné est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour gestion frauduleuse de son patrimoine et pour dissimulation des recettes de ses spectacles. Il se disait ruiné. Il aurait caché 1,45 million d'euros aux impôts.
Oui, ce qui fait de lui le premier antisémite plus pingre qu'un juif. Et ça, c'est assez rigolo.
Passons à notre série sur la vie sexuelle du couple Ménard.
Mais oui, Robert et Emmanuel Ménard sont des fans de l'humour Charlie Hebdo et Harakiri l'ont dit en début de semaine. Alors, on ne les privera pas du troisième épisode de Premier Baisier.
Premier baisier, Robert et
Manuel enlacé et
premier amour, pas glamour
du couple Thénardier.
Aujourd'hui, la thématique culinaire.
Robert?
Oh oui, Emmanuel.
Robert, fais-moi de la semoule.
Mais pourquoi?
Je fais la couscoussière.
Oh, toi, tu vas voir la merguez et les deux boulettes.
Oh, chauffe-moi le navet.
Oh, fais-moi du couscous, chérie. Fais-moi du couscous.
Oh, Robert, je bouge, oh, je bouge, oh, je bouge.
Oh, je vais te faire siffler la marmite.
Robert!
Je crois que j'ai lâché trop de ice.
Comme quoi, tout n'est pas acheté dans leur culture.
Oh, parle-en, ma petite corne de gazelle.
On passe au sport.
Ouais.
tout de suite. Au PSG, oui. Le staff de l'équipe féminine a menacé de faire grève pour réclamer plus de moyens.
Eh bien ça, c'est vraiment une belle évolution.
Oui, pour le football féminin.
Non,
oui.
Ça, on s'en fout. C'est une belle évolution de voir qu'au Qatar, les femmes pourraient l'ouvrir en faisant grève. Et ça, je trouve ça très beau.
Oui, allez, ouvrez-la en faisant des brèves.
Oui, alors. Morbihan, la mamie de 83 ans, rayait les voitures et pourrissait la vie de ses voisins.
Ah, ça pose question, ça.
Oui, bah, c'est une brève qui relance les débats sur l'euthanasie.
Oui, alors une dernière.
Et une dernière. États-Unis, une riche veuve refuse de quitter l'appartement de son mari vendu il y a un an.
Ah, qu'est-ce qu'ils lui ont dit?
Bah, ils lui ont dit, allez, Madame Bougrabe, il faut rentrer chez vous maintenant.
17h25 sur France Inter. En marche, camarade Guetta, le vieux monde est derrière toi.
C'est pour moi, ça?
Oui, c'est pour vous. Je l'avais préparé. Voici le premier sujet. L'épisode de la députée En Marche contrainte de manger des pâtes est révélateur. Les députés qui viennent du privé ont le blues. Ils déplorent les pertes financières, la moins bonne qualité de vie et ils se sentent inutiles. C'est une pleine page dans Le Monde datée d'aujourd'hui. Leurs compétences étaient reconnues dans leur précédent métier et ici, ils sont débutants. La preuve.
La prime de Noël. Alors, moi, je n'ai pas de prime de Noël en tant que député.
Non, pas vous. Non, en tant que député. Mais les Français, eux.
Peut-être que vous me donnez des informations, mais je n'ai pas du tout de prime de Noël. Alors là,
vous ne savez pas?
Ah non, mais je peux vous garantir que...
Vous connaissiez son existence.
Oui, oui. Mais vous me parlez pour les députés, c'est pour ça.
Non, mais je ne vous parle pas des députés, là, je vous parle des Français.
D'accord, très bien.
Est-ce qu'elle va être reconduite?
Mais qui c'est qui fournit la prime de Noël?
C'est l'État.
D'accord.
Ouais. Est-ce qu'elle va être reconduite?
Alors, j'ai pas d'informations sur ce sujet, sur la reconduction.
Oui, c'est pas la prime de Noël.
Si, si,
pour
je
les
connais.
Personnes les plus défavorisées. C'est un peu dommage. Non?
Bon, on a un peu mal pour lui, le député La République En Marche, Hervé Berville, featuring Benny Hill, bien sûr. Voilà donc une source de découragement aussi, il n'ose plus aller dans les médias, parce qu'il ne maîtrise pas tous les dossiers, on l'a entendu. Bernard Guetta, on avait envie aussi de vous entendre sur la politique intérieure.
Oui.
Cette belle idée de la société civile, des gens qui viennent aussi du monde de l'entreprise, qui sont ancrés dans cette réalité, qui sont novices à l'Assemblée nationale. Si nos élus sont découragés et ressentent un véritable malaise aussi par la rémunération, le style de vie, ça va pas assez vite, etc., est-ce que ça peut devenir un problème politique?
Écoutez, moi j'ai beaucoup, beaucoup ri hier en lisant ce papier parce que on entend constamment, vous et moi, nous tous, des petits patrons, et ne parlons pas des grands, dire « Oh, c'est politique, qui foutent rien, qui connaissent rien à quoi que ce soit, et qui s'en foutent plein les poches, et, oh, on pourrait en avoir beaucoup moins que ça. » Ah ben, ils arrivent à l'Assemblée nationale, et ils découvrent que les députés s'en foutent beaucoup moins dans les poches qu'eux-mêmes. Premier point, ce qui est vraiment emmerdant pour eux, quoi. Et deuxièmement, ils découvrent que député, c'est un vrai boulot.
Et mal payé.
Et mal payé. Enfin, il faut connaître des choses.
Enfin, disons tout est relatif.
Ouais, c'est ça, non, mais par rapport, alors,
par rapport au petit patron, évidemment. Non, je dis pas par rapport à un smicard. Ça va de soi. Ça va de soi. Et alors, il découvre que pour être député, il faut connaître des choses aussi étranges. Mais vous ne l'imaginerez jamais. Que des pauvres, que des gens qui touchent la prime de Noël, quoi, c'est ça. Alors là, il tombe des nues et il regrette le bon temps, ben, finalement, où ils étaient patrons et où les pauvres, ben, c'était leurs salariés. Ben, c'est plus du tout la même chose. Non, c'est très, très réjouissant. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup fait rire.
Mais est-ce que ça peut causer un problème politique s'ils sont une petite centaine qui sont découragés, qui sont dans le malaise?
Non, écoutez, soyons justes, c'est pas tous.
Il y en a bien d'autres.
Hein, c'est une
minorité.
Il y en
a qui s'en sortent. Il y a une cellule psychologique.
Il y en a qui survivent et qui sont très bons. J'ajouterais, et qui sont très bons.
Dans les nouveaux, vous avez des belles surprises?
Oui. Ah oui, absolument. Ne demandez pas de nom parce que je les ai oubliés. Ce serait une colle. Hein. Mais il y en a.
Oui, il faut seulement s'adapter.
Écoutez, on en a vu passer au micro de France Inter dans la matinale. Il y avait une dame qui était venue parler de la fiscalité. J'ai complètement oublié son nom. J'ai vraiment honte.
Ce serait pas Amélie Montchalin?
Bravo.
Oh,
mais qu'est-ce qu'elle est?
C'est une professionnelle.
Ah non, écoutez, elle est super bonne. Mais alors, en revanche...
Médiatiquement, c'est sûr. Non, mais
vous avez ri grassement.
Parce qu'on entend qu'on va couper le son. Elle est super bonne, ben, et voilà. Qu'on va la coller à une autre phrase.
Non, mais bien sûr, je l'ai entendu rire grassement. Non, vous n'êtes pas des gens fréquentables, vous le savez. Je le savais.
Vous étiez prévenu, Bernard.
Je le savais avant de vous dire. Mais j'ai cédé à la tentation d'Ulysse.
De venir voir.
Du livre de Il faut.
Et ben voilà.
De ça venir se vend pas tout seul, ces petits trucs.
C'est pour vendre un bouquin, on fréquente même des Belges. C'est un truc absolument inouï. Non, mais si on est sérieux.
Oui. Soyez le
bon. Bon, il y en a vraiment de première bourre. Mais vraiment de première bourre. Et puis, il y a une marche comme ça. Ben, ils sont un peu neuneux.
Le temps fera son œuvre.
Ils s'imaginaient que la politique. Non, c'est pas vrai. C'est un métier.
Mais ils peuvent apprendre.
Jean Lacouture disait à propos du développement comme ça, du n'importe quoi sur Internet. Quand le journalisme sera le métier de tout le monde, ce ne sera plus le métier de personne. Et quand la représentation nationale sera le métier de tout le monde, ce ne sera plus le métier de personne.
Belle conclusion. Bernard Guettat, on renvoie cet article du Monde aussi, qui est, c'est vrai, très amusant. Voilà, nous sommes en compagnie de Bernard Guettat, dont les initiales sont BG, comme beau gosse. Coïncidence.
Ah, vous l'avez noté?
Je l'ai noté.
Bravo.
L'autre beau gosse.
Je n'arrête pas de le suggérer, mais ça ne prend pas. Je ne sais pas pourquoi.
Thomas Bideux.
Oui, voilà, on en est là, Bernard. Et mes initiales, moi, c'est TB, c'est très beau,
très bon
gosse, très bon, voilà. Enfin, on va voir. Donc, c'est à moi, et une fois de plus, moi, je viens parler de storytelling, de tous ces petits cadeaux d'histoire que trimballent dans leur hôte les éminences de ce monde et qu'ils déposent délicatement le soir du grand récit venu sous nos sapins silencieux, juste sous les branches du bas, au ras des boules, et qui, au petit matin, font de nous, crédules enfants, leurs jouets par milliers. Enfin, voilà, bon. Oui, c'est beau, ça. Alors, il y avait un point quelque part, mais je crois que je l'ai perdu. Enfin, bon, le sujet du jour dans notre beau monde du storytelling, c'est le biopic. Parce que à la télé, comme au cinéma, les gens raffolent de la vie des grands personnages. Que ce soit la reine Victoria, Edward Snowden, Mandela, Winston Churchill, Malcolm X ou Abraham Lincoln, tous sont droits à leur biopic. En France aussi, d'ailleurs, mais l'intérêt se porte plus sur Dalida ou Claude François. On a les grands personnages qu'on mérite, visiblement. Et donc, voilà. Déjà, analysons le terme. Dans biopic, il y a bio, parce que pas besoin d'engrais, ça pousse tout seul, il en sort un tous les 15 jours. Et puis, il y a pic, parce que le scénario, c'est pas compliqué, il suffit qu'on le pique sur Wikipédia. Et le tour est joué, c'est pas trop compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour mériter son biopic? Eh bien, apparemment, il suffit d'être mort. Et c'est pour ça qu'on a des biopics sur Jackie Kennedy et pas sur Vladimir Poutine, par exemple. Pourtant, ce serait intéressant. Rien que jeudi dernier, à 11h du matin, il a annoncé qu'il se représentait à l'élection présidentielle en Russie. Et 45 minutes plus tard, à midi moins le quart, il a annoncé qu'il avait gagné. Mais bon, pour atteindre le niveau biopic, faut être mort. Et c'est comme ça. Avant la mort, on se contente du livre de souvenirs. Merci Bernard. Et bien, prenez Charles Manson, par exemple, l'ignoble bourreau californien. Eh bien, il est mort le mois dernier et Quentin Tarantino est déjà en train de tourner son biopic. Et oui, Charles Manson est mort. Il a rejoint Himmler, Émile Louis, Oussama et les responsables de la plateforme téléphonique du service clientèle Livebox Orange. Mais bon, voilà, désormais, un biopic tient lieu d'oraison funèbre. On imagine les producteurs français se grattant ce qui leur sert de cerveau en se demandant qui pourrait bien interpréter dignement le rôle de Johnny Hallyday.
Ah oui.
Et c'est pas simple, parce que Johnny, sur ses vieux jours, ressemblait curieusement de plus en plus à Sylvie Vartan. Et donc, le casting est compliqué. Enfin, voilà. Alors, pourquoi les biopics sont-ils réservés à nos... cher défunt.
Je pensais que vous alliez faire une vanne sur Sylvie Vartan. Elle est pauvre, elle n'a pas mérité ça.
Non, c'est vrai. La barbiche en moins, ça c'est pour Manuel Valls. Alors, bon, alors pourquoi les biopics sont-ils réservés à nos chers défunts?
Oui.
Et à nos chères défuntes aussi, bien sûr. N'oublions pas que sans Marie, Pierre n'aurait peut-être jamais inventé le curry. Mais parce qu'il faut... C'est très bon ça. Parce qu'il faut...
Parce que... J'avais pas compris.
Mais si Bernard. C'est pour ça le podcast. Le podcast. Alors...
Continuez.
Eh bien, parce qu'il faut attendre la fin de l'histoire pour en connaître le ton, pour savoir à quoi ressemblera le film. On n'est jamais à l'abri d'un dernier tweet à la Gérard Filoche ou d'une révélation de la 11e heure à la Patrice Bertin. Et boum, la tuile, faut tout réécrire, le bébé, l'eau du bain. Enfin bon, imaginez par exemple un biopic de Gérard Collomb.
Aïe. Bah,
fils d'un ouvrier métallurgiste et d'une femme de ménage, le petit Gérard grandit dans les ruelles du Vieux Lyon. Là, on a un premier acte assez génial. Et puis, il fait des études, il est socialiste. Par le travail, il s'extrait de sa condition et devient maire de cette capitale des Gaules qu'il a vue naître. Il fleurit la ville, il surveille d'un œil attendri les illuminations de Noël. Bon, ça manque un peu d'action, mais ça fait quand même une chouette histoire. Et puis voilà, ça devient une... Enfin, c'était une fable sur la revanche sociale. Et là, le troisième acte, coup de théâtre, il est plus socialiste, il est même plus lyonnais, il abandonne sa ville et toutes ses convictions pour devenir ministre à Paris. Il commence, bon, par empêcher la distribution de vivres aux migrants. Là, forcément, les scénaristes s'arrachent un peu les cheveux. Et puis, la semaine dernière, il propose une circulaire prévoyant le recensement, l'étiquetage et le triage des personnes dans les centres d'hébergement d'urgence. Ah bon, Emmaüs, la Fondation Abbé Pierre, la CIMAD, la CNIL, la Ligue des Droits de l'Homme, tout le monde proteste. Mais il en a rien à foutre, Gérard. Il fait la sourde oreille, un peu comme les gens de la plateforme téléphonique Livebox Orange. Et voilà. Eh ben, il se l'est bien gâché, son biopic. Il se l'est bien chié. Ça marchera jamais, parce que c'est toujours la même histoire avec les ministres de l'Intérieur. D'ailleurs, qui y réfère à un biopic sur Manuel Valls. Bon, eh ben, ils sont toujours prêts, les ministres de l'Intérieur, à rogner sur les libertés publiques dans le but de faciliter les tâches administratives. Eh ben, bien sûr, le président, pendant ce temps-là, parle de dignité et de l'avènement d'une société nouvelle. Alors, voilà. Bon, pour Noël, Amazon vient de permettre à ses clients de créer une shopping list pour son animal de compagnie préféré. C'est nouveau, c'est pour célébrer ses fidèles petites bêtes. Eh bien, Emmanuel Macron doit sûrement y avoir inscrit son petit Gérard.
Un hommage Gérard Collomb, c'est l'ensemble de votre œuvre. Hommage Gérard Collomb.
Il est fait, le biopic, c'est bon, Collomb, c'est bon, il est écrit.
Voilà. Allez. Merci. Ça, c'est fait. Donc, pour Noël, c'est un contrôle.
Bien.
Non, merci.
Ouais.
Non, merci, regarde, c'est les biopics. Ouais,
ouais. Le storytelling de Thomas Bideguin. Merci, Thomas. Nous sommes en compagnie de Bernard Guetta jusqu'à 18h. On en profite. Il publie dans L'ivresse de l'histoire chez Flammarion.
Hear me now, life gets unpredictable. Ooh, I swear bigger to go, and that's the better I shoot. Cause we are trained, trained for the cause. I'm coming for you, come run, yeah, I'm gunning for you. Train. Yeah, we are trained. Trained for the cause.
Donc on n'est pas obligé de l'écouter jusqu'au bout si vous voulez, c'est We Are Trained. Vous êtes sur France Inter en compagnie de Bernard Guetta, il est 17h39 à Montéthon. C'est dans le Lot-et-Garonne.
Oh,
vous l'attendiez évidemment.
Oui.
Il donne l'heure maintenant.
Bernard Guetta, le chroniqueur de géopolitique tous les matins à 8h15. Et à côté de vous Bernard, il y a Christine Gonzalez qui nous vient de la radio-télévision suisse romande.
Bonjour. Voilà, ça fait 2 ans, la COP21, c'était pour l'occasion de se réunir à Paris pour le One Planet Summit. L'occasion donc de faire revenir pour moi Jacques-Yves Cousteau, que parfois on pouvait admirer quand on était jeune. On va se mettre en ligne avec le commandant Cousteau, s'il est là.
Votre appel a été mis en attente, merci de patienter.
Voilà. Ah, on me dit dans le casque qu'il est avec nous. Commandant Cousteau, vous êtes bien là?
Ah oui.
Alors on commence. 1, 2, 3.
Partez.
Dites, à quoi ressemble au-delà?
Ça s'apparente à un brouillard épais.
Et donc vous n'y voyez rien?
La visibilité est de l'ordre de 30 mètres.
Vous pensez bien, Jacques-Yves Cousteau, que l'on va parler ensemble d'écologie?
Oui, certainement.
2 ans après la COP21, nous le disions, s'est tenu à Paris le One Planet Summit.
Bah, je pense que c'est merveilleux.
Ouais, il y avait même Arnold Schwarzenegger.
C'est pas croyable.
Si. On va écouter quelques secondes, si vous le voulez bien, le discours de Macron. N'hésitez évidemment pas à intervenir si vous le souhaitez.
Et c'est ça le drame.
Oui.
On ne va pas assez vite.
C'est vrai.
Si on continue sur notre lancée, on est là où on s'est engagé à une augmentation d'en moyenne 1,5 degré.
Oui.
On est à 3 degrés et demi. Enfin,
c'est grotesque.
Ça n'a rien à voir avec ce à quoi on s'est engagé.
Rien.
Quand Macron dit qu'on est en train de perdre la bataille, vous êtes d'accord avec ça?
Je suis pessimiste parce que je sais que dans la forme actuelle des choses, je ne connais aucun dirigeant de gouvernement dans aucun pays qui ait la force ou qui ait même les moyens de prendre les mesures utopiques qui serait nécessaire, mais je reste optimiste parce que je pense qu'on va finir par forcer les choses à devenir utopiques, c'est-à-dire à sauver le monde.
Sinon, durant ce sommet à Paris, on a aussi entendu Marion Cotillard. On en écoute un extrait. Là encore, vous pouvez réagir.
J'ai répondu à l'appel de Nicolas Hulot,
qui
fait un travail formidable et très complexe.
Attendez, là vous êtes en train de vous moquer de ses hésitations.
C'est vrai.
Non, mais là, c'est pas très élégant. Hein. Écoutez la suite, c'est assez intéressant.
Et même si certains se battent, on leur laisse quand même une planète dans un état assez déplorable.
Non, mais commandant Cousteau, arrêtez. Oh là là, on nage en pleine misogynie là.
Pas du tout.
Bon, alors maintenant vous présentez vos excuses à Marion, je sais qu'elle nous écoute.
Oui.
Votre correspondant est actuellement occupé. Votre appel a été mis en attente.
C'est tellement immature. Commandant Cousteau, vous faites partie de ces hommes déboussolés qui ne savent pas comment agir avec les femmes, c'est ça?
On sent bien que tous les hommes sont sur la même boule, qu'il n'y a rien d'autre.
On va parler d'écologie. J'aimerais votre avis sur Nicolas Hulot, un globe-trotteur comme vous, qui s'est fait connaître par ses films, avant d'endosser comme vous la casquette de défenseur de l'environnement. Cette analogie vous convient-elle?
On a les mêmes organes, on a un cerveau du même poids, comportant à peu près le même nombre de cellules, etc. Enfin, il y a des analogies vraiment frappantes.
Et sinon, vous pensez quoi de lui dans son rôle de ministre?
Il n'a pratiquement pas d'ennemis. Ses seuls ennuis, c'est peut-être quelques parasites. Le reste du temps, il voyage et il joue.
Il a dit sur cette antenne que c'est chiant du matin au soir d'être ministre. Vous pensez qu'il est à sa place au gouvernement?
Enfermer un animal comme ça dans un bassin, c'est inadmissible.
À propos de bassin, j'aimerais qu'on parle de vos activités d'explorateur à l'époque, explorateur des fonds marins, qui font encore polémique.
On s'en fout.
Non, pas forcément. Certains estiment que vous faisiez du mal aux poissons, que vous assassiniez les requins, que vous faisiez péter des récifs à la dynamite, juste pour quelques images.
Votre appel a été mis en attente. Merci de patienter.
Commandant Cousteau. Commandant Cousteau. Je vous ai contrarié ?
Ça, c'est le genre de questions indiscrètes que vous avez l'habitude de poser. Que je voulais que j'en sache.
Bon, d'accord. Rien à ajouter ?
Rien.
Plus rien ?
Plus rien !
Ok, se calme. Un dernier mot peut-être pour Charline et Alex ?
Je les admire beaucoup.
Ah, et moi ? Ah bon.
Merci Christine Gonzalez, ah ben, bravo. Bravo avec à la réalisation Marion Lelay, à la technique Elisabeth Collet et Léo Prangère. Merci Christine Gonzalez qui nous vient de Suisse.
Oui, qui en a ce soir pour 4 heures de train, encore pour rentrer à Lausanne, hein, faut le dire.
Ouais. Avec la neige, ça arrive plus loin encore.
Oui, c'est vrai. Nous sommes en compagnie de Bernard Guetta et on va aborder ce deuxième sujet avec vous, Bernard. C'est Carlos Ghosn qui devient un mogul des médias, comme Dassault et Bolloré. Le constructeur automobile Renault entre au capital du groupe Challenge à hauteur de 40%. Challenge, c'est le magazine Challenge, bien sûr, c'est Science et Avenir ou le magazine Historia. Et Carlos Ghosn veut en faire du contenu à la demande pour voitures connectées. Les journalistes ont trouvé le nouvel hymne pour louer leur nouveau patron.
Je travaille pour payer ma voiture. Je paye ma voiture pour aller travailler. Je travaille pour payer ma voiture. Je paye ma voiture pour aller travailler. Je travaille.
C'est Bolchevita. Et Bernard, vous nous aviez caché ce groupe punk que vous aviez fondé en 77. Non, Bolchevita est un groupe originaire de Nancy, fondé en 2003. Et quand vous voyez le patron de Challenge, Claude Perdriel, que vous citez dans votre ouvrage, que vous avez connu, et quand vous voyez Perdriel et Carlos Ghosn...
Tout ça juste pour m'embarrasser horriblement.
Mais non,
évidemment. Non, vous êtes perverse.
Quand vous voyez Perdriel et Carlos Ghosn côte à côte pour annoncer le rachat du magasin par une automobile, vous vous dites quoi ? Considération sur la presse,
est-ce que c'est la presse ? Je me dis que je marche sur des braises, parce que je vous rappelle, apparemment vous ne le savez pas, que je suis un collaborateur régulier de Challenge, salarié, vous voyez ce que je veux dire ? Mon emploi est menacé.
Vous allez vous retrouver dans...
Mon emploi est menacé. Alors, ce que je me dis, avant de passer à la concurrence, ce que je me dis... Écoutez, je cherche une formulation adéquate.
Vous pouvez devenir 2.0 si vous restez...
Je me dis... que c'est étrange, finalement, de devenir une bagnole. Quoi. Parce que finalement, ce monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle là, monsieur Renault, il produit des voitures et maintenant il va produire des articles. C'est bizarre.
Pour sa voiture.
Pour sa voiture. Non, alors sérieusement, l'idée, elle n'est pas conne. Pas du tout. Mm-hmm. Surtout pour Perdriel, qui empoche 4 ou 5 millions, si j'ai bien compris. Mais elle n'est pas conne, sauf que monsieur Renault, il a oublié une chose. C'est que pour diriger un journal, donc pour faire un journal, il vaut mieux avoir une vision du monde, des idées à défendre, être journaliste, etc., etc. Or, monsieur Renault, il sait faire des voitures, à ce qu'on me dit, mais la vision du monde, les idées, le machin, non, le journaliste, je ne crois pas vraiment que ce soit lui. Alors, il va devenir à terme patron de Challenge, parce que quand on prend 40%, c'est pour prendre 51% rapidement. Il va devenir à terme patron de Challenge. Il va respecter l'indépendance de la rédaction. Oui, peut-être, effectivement. Ça, j'en doute pas trop.
Sauf dans les pages automobiles, peut-être.
Oui, non, surtout dans les pages automobiles, parce que ça, c'est ce qu'il y aura de plus visible. Sur les marques de yaourt, je pense qu'il sera assez interventionniste. Mais en revanche, est-ce qu'il sera donné une âme à Challenge et aux autres journaux qu'il va acheter maintenant, parce qu'il va en acheter d'autres, c'est clair. Ben là, j'en doute. Parce qu'on oublie, ces gens-là oublient que François, c'était Pierre Lazareff, que l'Express, c'était François Giroud et Jean-Jacques Servan-Schreiber, l'Observateur, Jean Daniel.
Mais ça, c'est le vieux monde, Bernard. Maintenant, c'est Bolloré, Dassault, Ghosn.
Alors justement, on n'arrête pas de me dire...
Des grandes... patrons d'entreprise qui vous plaisent. Il y a des grands patrons de journaux, pardon, des grands patrons de presse, je voulais dire.
Bah, Laurence Bloch, déjà.
Hormis Laurence Bloch,
non.
Génial.
Non, je n'allais pas citer Laurence Bloch, mais c'était un oubli, évidemment. Non, je n'allais pas citer Laurence Bloch. Je cherche... Edoui Plenel, non, pas particulièrement. Ça devient compliqué.
Eh oui.
Ça devient compliqué parce que la presse est dans une période de basse eau. Et je pense que d'ici 10-15 ans, on va redécouvrir qu'il faut des boeufs mairies et des gens comme ça. Des patrons de presse. Parce que quand ce sont les fabricants de yaourts ou d'automobiles qui s'improvisent patrons de presse, eh bien la presse se casse la gueule.
Bernard Guetta, voilà pour ce sujet. Alors, le PDG de Renault a dit pour nous, c'est une start-up. Et Perdriel a ajouté une future licorne. A-t-il plaisanté ? Je vous donne le ton.
Encore alors, une fois, je n'ai pas compris. Mais
non,
pas, mais
nous, nous pas tellement non plus, je vous dirais. Ah, mais on a trouvé ça. Mais oui, bon, licorne, tout ça, c'est très
2.0. C'est un terme 2.0, licorne.
Oui, voilà.
Ah, ça doit être une entreprise dont on n'avait pas pensé qu'elle puisse exister. Ah, ça, wow, j'imagine. Hein, wow. Alors,
ah, bah, vous non plus, vous ne savez pas. Quoi.
Non.
Ah bon ?
Il va essayer de faire plus clair. Thomas VDB.
Voilà.
Lui, il sera clair.
Oh là là, c'est que, pas si sûr. Alors non, en tout cas, je voudrais rappeler qu'à l'approche de Noël, je voudrais évidemment préciser que quand ils s'approchèrent de la grotte où naquit Jésus, Melchior, Balthazar et Jean-Pierre avaient amené avec eux de la myrrhe et des encens au moment où Marie commençait à perdre les os. Et enfin voilà, donc il s'est passé tout un tas de choses. Mais donc, maintenant, j'arrive vraiment à l'actualité dont je voulais parler, qui est une actualité dont, que j'ai découvert il y a 2 semaines, alors que j'étais en train de regarder l'émission Incroyable Talent, parce que moi j'adore regarder Incroyable Talent. C'est vrai qu'à chaque fois que je vois les talents qui passent dans cette émission, à chaque fois je dis mais c'est pas croyable ce talent. Et finalement, enfin en général j'arrive quand même à y croire, mais bon en général voilà. Et donc il y a un mois, il y a un chanteur qui est passé dans cette émission qui s'appelle Danny Machado, oui, alors que je ne connaissais pas du tout, et il est venu chanter une chanson devant le jury et le public, et là il nous dit vous savez moi je veux pas faire carrière dans la musique, hein. Moi je suis juste venu là pour dédier une chanson à mon ami Alexandre qui est décédé pendant les attentats du Bataclan. Et donc là le gars il joue une chanson et franchement la chanson elle est un peu nunuche, mais comme c'est en hommage à son ami bah, mort au Bataclan, à la fin tout le monde se lève dans le public, oh là, écoute c'est le meilleur hommage que tu pouvais rendre à ton ami Alexandre, et moi même moi chez moi je suis devant mon canapé et je dis bah, franchement je trouve ça beau, et même là sur ma page Facebook je mets un petit mot pour en parler avec le smiley avec la larme du qui pleurniche, oh, c'était quand même triste. Et sauf que là 3 jours plus tard il y a l'association Life for Paris qui défend en fait la mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015 qui poste un communiqué en disant bah c'est bizarre parce qu'il n'y a aucune victime du Bataclan qui portait le prénom Alexandre. Alors on dit bah oui dis donc c'est bizarre, hein, donc on vérifie, et même là il y a même les gars de Daesh qui confirment, ils disent nous on n'a pas tué, nous on a les listings là, on n'a pas tué de Alexandre au Bataclan, alors on en a à Orlando, on en a à Nice, hein, mais on n'a pas de Alexandre au Bataclan. Et là, le chanteur Danny Bidule, il finit par avouer. Il dit, mais non, mais c'est parce qu'en fait, c'était une métaphore. Hein, j'avais pas précisé, mais je me mettais dans la peau de quelqu'un qui avait perdu un proche au Bataclan. Il avait tout inventé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que moi, bah, je vais sur ma page Facebook et que j'enlève mon smiley ému. Hein, je mets un smiley mort de rire. Mais surtout, ça veut dire que le gars, quand il y a eu les attentats, il était chez lui devant BFM et il voyait les témoignages de gens qui avaient perdu un proche au Bataclan. Et le gars, il était jaloux. Il est allé dire, ah, le bol qu'ils ont de pouvoir être tristes. Ah, là, là, j'adore. Ils vont pouvoir dégager, mais tellement d'émotions. Moi, comment je vais faire pour faire des chansons émouvantes? Et alors, je vais pas dire qu'on peut comprendre, mais c'est vrai que moi, j'avoue que j'avais un truc un peu pareil quand j'étais petit. Au collège, quand il y a un gars, il arrivait, il s'était cassé la jambe, il avait des béquilles et un plâtre. J'étais un peu jaloux. Parce que tout le monde allait le voir en lui disant, hey, t'as des béquilles et tout. Et tout le monde parlait que de ça. Et donc, j'étais, ah, le bol qu'il a d'avoir des béquilles. Franchement, il va mettre un quart d'heure pour monter 10 marches. Voilà, c'est vraiment, ça a l'air d'être le top. Et ben, Danny Machado, c'est pareil. Le soir des attentats du 13 novembre, il était devant la télé, il était dégoûté. Il dit, allez, comme par hasard, il y a personne que je connais dans les morts. Ouais. Ça, c'est tout, moi. J'ai jamais de bol. J'ai jamais de bol. Ça, c'est vraiment de la veine que pour la crapule. Il y a de la veine que pour la crapule. Et c'est là qu'il s'est dit, mais si je dis que j'ai un pote qui s'appelle Alexandre qui est mort, il est peut-être que les gens, ils vont me regarder comme si j'avais des béquilles. Alors, sauf que le gars, évidemment, il n'a pas pris la peine de vérifier qu'il y avait un gars qui était mort au Bataclan qui s'appelait Alexandre. Il s'est juste dit, bah, je suis pas con quand même. Je vais pas aller raconter que mon pote Clotaire, il est mort au Bataclan. Ah, il dit, je vais prendre un prénom un peu connu. Voilà, sauf que pas de bol, il n'y a pas d'Alexandre au Bataclan. Il est un peu con, le Danny, en fait. Ouais, parce que, hein, c'est que c'est vrai que s'il avait dit, par exemple, que son ami John était mort le 11 septembre à New York, au niveau probabilité, j'aurais pris. Ben non, il aurait eu plus de chance quand même de tomber sur un gars qui était vraiment mort. Ou alors si ça tombe, je me dis, il a peut-être juste un pote qui s'appelle vraiment Alexandre, et il s'est dit, tiens, je vais parler de lui en m'imaginant qu'il est mort, comme ça, ça m'aidera à être ému, quoi. Et si ça se trouve, d'ailleurs, même son vrai pote, Alexandre, il regardait Incroyable Talent, soir où il a chanté la chanson, il l'a appelé, il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas mort, moi, je suis devant ma télé, je suis dans mon canapé en train de regarder. Et l'autre, il dit, chut, dis que t'es mort au Bataclan, mais dis rien. Voilà, donc j'ai un conseil à donner à Dani Machado. Il pourrait soit directement envoyer l'adresse et le téléphone de son pote Alexandre à Daesh, comme ça peut-être Daesh pour régler son problème, ou bien tout simplement de faire une chanson en hommage à son ami Alexandre, qui n'est pas mort au Bataclan. Hein, voilà, tu aurais pu y rester, mais tu n'es pas allé au concert. Imagine mon désarroi quand je l'ai vu que tu n'étais pas sur la liste des victimes. Voilà, évidemment. Mais le gars, c'est mieux parce qu'il va pouvoir, se lâcher. Chaque semaine, il va pouvoir faire une chanson sur un pote qui n'est pas mort au Bataclan. Pour toi, Denis, pour toi, Jean-Pierre. Évidemment, hein, il peut en faire beaucoup. Voilà, donc moi, je voulais dédier cette chronique à Paco, qui est un pote de pote. Enfin, c'est pas un pote de pote. Enfin, c'est plus un pote qu'un pote de pote. Paco, bon, en fait, Pablo, c'est mon meilleur ami. Voilà. Paco ou Pablo? Qu'est-ce que je vous ai dit? Je sais plus, voilà. Paco, voilà. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il est mort pendant un accident de saut à l'élastique. Et cette chronique, je l'ai aidé vraiment pour m'aider à faire mon deuil. Et je lance un litchi. Si des gens veulent amener des dons, peut-être en hommage à Thomas VDB, pour m'aider à surmonter un petit peu tout ça. C'est ce que j'avais à dire. Merci à tous.
Merci Thomas VDB pour votre retour en fanfare.
De fanfare. Est-ce que je peux dire ce que c'est qu'une licorne?
Parce
que vous devrez tous le savoir. Dans la Silicon Valley, c'est une start-up valorisée à plus d'un milliard de dollars. Et comme ça fait référence à une chose rare, la licorne reliée au rêve, le terme a été repris pour qualifier les start-up atteignant la valorisation de 1 milliard, parce qu'il y en a très très peu.
Mais c'est un mail de Claude Perdrier?
Non, c'est la page Wikipédia.
Ah,
et
oui,
donc
d'accord.
C'est pour ça, lui, il avait l'air de savoir de quoi il parlait. Donc, on est aussi là pour comprendre la Macronie ici.
C'est vrai, voilà. Pour la start-up et la licorne. Oh là, on est perdu dans ce nouveau monde, Bernard Guetta. Heureusement que vous nous l'expliquez tous les matins, parce que sans
Je vous explique que l'ancien. Le nouveau, j'y comprends rien.
Bernard Guetta est avec nous, qui publie Dans l'ivresse de l'histoire, paru chez Flammarion. Et nous, on parlait de fanfare tout à l'heure, de guitariste. Je ne sais pas s'il est ému. Il vient d'entrer dans le studio.
Il est toujours ému, il est toujours émouvant. C'est Frédéric Fromet qui est derrière vous, monsieur Guetta. De quoi allez-vous nous chanter?
Je me suis intéressé au plan choral de Jean-Michel Blanquer. Sachant que l'un des chanteurs préférés des ados est Booba, voici en avant-première le chant des choristes sur les plus beaux textes du poète. Si tu me vois enculé, ta dingue, crois pas que je fête Noël. Je vais faire un manteau de fourrure avec les poils de Sacha. Je vais faire un manteau de fourrure avec les poils de Sacha. Mieux vaut avoir une bille dans le cerveau que d'avoir le cerveau dans la schneck. Coucou tous les enfants qui nous écoutent. Viens dans ma brechant. Viens, le loup est grand et méchant, c'est juste pour niquer. Ne crois pas surtout qu'on est en bleu sang. J'ai des couilles en or, je passe pas les détecteurs de métaux. Meuf, fais pas ta te pu. On dirait ta sœur, c'était juste moi dans ton cul. T'as cru qu'on était plusieurs. Je rappelle que c'est pas moi, c'est vraiment Booba. Je fais des dons d'urine pour que la France entière se désaltère. Je m'en bats les couilles, je me lave le pénis à l'eau bénite. Je m'en bats les couilles, je me lave le pénis à l'eau bénite. Passe-toi la chatte au rouleau. Fais-toi des bigoudis, un piercing au clito et vive la poésie. Merci Jean-Michel, merci Jean-Mimi. Là c'est plus Booba, hein, c'est moi. Poursuis ton chemin, impose la chorale à l'assemblée. Vous avez déjà l'uniforme essoré. Vous vous passez de vos smartphones. Saurez-vous nous montrer, nous donner l'exemple? Ne plus dormir, ne plus tricher, ne plus sécher les séances. Une dernière fois parce que c'est trop mon kiff. Si tu me vois enculé, pas d'un, ne crois pas que je fête Noël. Je vais faire un manteau de fourrure avec les poils de Sacha. Je vais faire un manteau de fourrure avec les poils de Sacha.
Voilà.
Merci Frédéric Fromet. Sur des paroles de Booba. Donc c'est, vous n'avez pas changé les paroles.
Je n'ai rien changé.
C'est Booba.
C'est Booba.
Donc c'est ce qu'écoute.
Qui est en playlist France Inter.
Il y a une chanson.
Il y a une chanson qui a été en playlist, donc on est couvert.
Mais il n'y a pas les mots tut et les mots tut et les mots tut.
C'est un peu compromettant quand même.
Oui.
C'est le mot, c'est le mot.
Enfin bon.
C'est tout à fait, ça éclaire bien le texte. Ça met en valeur la prose.
Et c'est pas les yéyés, là.
En parlant de prose, on vous conseille l'ouvrage de Bernard Guetta dans l'ivresse de l'histoire, paru chez Flammarion, celui qui a fait péter la France en 68 avec ses petits camarades, qui nous a foutu un beau bordel. Il explique tout son bordel dans son livre. Bernard Guetta, on était ravis de vous recevoir et on sera heureux de vous retrouver dès la rentrée à 8h15 pour Géopolitique, bien sûr.
C'est plutôt 18.
Ah oui, oui, il y a des petits retards. 8h18, vous le faites exprès aussi. Thomas VDB, vous êtes ce soir et le samedi, vendredi et samedi, au Sentier des Halles pour votre spectacle.
Bon chien à 20h.
Exactement. Et Frédéric Fromet, vous jouez ce week-end ?
Ah oui, dimanche à la Comédie de Paris.
Dimanche à la Comédie de Paris pour Frédéric Fromet et Alex Vizorek.
Mézières-les-Messes, moi je vais en Lorraine. Voilà,
et
on
voilà.
Se partage la tâche.
Merci à tous, merci Christine Gonzalez, merci. Et merci Thomas Bidguin et Bernard Guetta, bien sûr. Bonnes vacances Bernard.
Oui, profitez-en.
C'est la fin de l'émission et voici le mot de la fin. On souhaite un bon week-end à tous les nouveaux députés au bord du nervous breakdown.
Josiane, faut que tu viennes me chercher. Hein. J'ai plus de tes messages, j'ai peur de moi là.